Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Binge Audio. Chers auditeurs, bonjour. Dans cet épisode, qui est mené par le journaliste Tal Madesta, nous nous intéressons aux masculinités trans, c'est-à-dire aux hommes dont on a dit à la naissance qu'ils étaient des filles, qui ont été vus et traités comme tels, jusqu'à ce qu'ils entament un parcours de transition. Salut Tal.
Salut Victoire.
Tu es toi-même un homme trans, c'est un parcours que tu as raconté notamment dans ton livre « La fin des monstres ». Et je trouve ce sujet passionnant parce que, en tant qu'homme trans, vous avez une connaissance unique, profonde et très lucide sur ce que signifie devenir un homme et sur la masculinité. Contrairement en fait à plein d'hommes cisgenres, je rappelle que cisgenre, ça veut dire se reconnaître dans le genre qu'on nous a attribué à la naissance. Moi par exemple, je suis une femme cisgenre. Pourtant, on te rétorque souvent que les transidentités, c'est un micro-phénomène et qui ne concernerait pas grand monde. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup dans la population. Tu vois, en France, selon le ministère de la Santé, en 2022, il y avait entre 20 000 et 60 000 personnes trans en France. Donc c'est tout au plus 0,09% de la population totale.
Pourtant, ce qu'on entend parfois aujourd'hui, c'est que les transidentités, ce serait une sorte d'épidémie hyper dangereuse pour les enfants et les adolescents, les adolescentes. Ça aussi, on va en reparler dans cet épisode. Je voudrais juste revenir sur cette histoire que comme homme trans... Toi, Tal, t'as dû apprendre tout un tas de codes masculins. Je me souviens par exemple que tu m'avais raconté un jour que t'avais appris à arrêter d'être trop poli ou de sourire aussi souvent.
Oui, je me suis rendu compte qu'au début de ma transition, quand j'ai commencé mon traitement hormonal à prendre de la testostérone, que quand j'étais moins poli, les gens ils m'appelaient plus monsieur et pas madame.
Tu parles de traitement hormonal. J'en profite pour rappeler que transitionner en France, c'est toujours un parcours compliqué. Il y a plusieurs parcours, mais l'accès à des traitements hormonaux, à des chirurgies d'affirmation de genre ou le fait de voir son sexe changer sur ses papiers d'identité, c'est conditionné à un ensemble de critères stricts. C'est long, c'est très coûteux, c'est au fond assez humiliant puisque c'est contrôlé par des autorités médicales ou judiciaires, même si franchement je vois vraiment pas pourquoi l'État se mêle de cette question. Je veux juste aussi rappeler que personne ne change de genre comme on changerait de chemise. Personne ne le fait pour le plaisir et encore moins parce que ce serait à la mode. C'est de tout cela dont vous parlez avec ton invité, Emmanuel Bobatti, qui est sociologue, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales et chargé de recherche au CNRS. Il a écrit l'essai « Transfuge de sexe » en 2021 aux éditions La Découverte et tout récemment, le court essai « Ne suis-je pas un ou une féministe » qui vient de sortir au Seuil. J'ai appris plein de choses en vous écoutant discuter tous les deux. Par exemple, que les hommes trans transitionnent beaucoup plus tôt dans leur vie que les femmes trans.
Oui, autour de 25 ans pour les hommes trans contre 37 ans pour les femmes trans. Et bien sûr, il y a des raisons à cet écart. C'est ce qu'Emmanuel Bobatti a commencé par nous expliquer.
Ça fait effectivement un sacré décalage d'âge en début de transition. Et moi, une des hypothèses que j'ai avancées par rapport à ça, c'est le fait que... beaucoup de femmes trans sont amenées en fait à renoncer d'une certaine manière à la transition dans la jeunesse parce que dès les premières marques de féminisation, la sanction sociale est assez terrible. C'est quelque chose qui est extrêmement sanctionné chez un garçon ou un homme de se féminiser. Et du coup,
concrètement, les sanctions ressemblent à quoi ?
On parle de d'épisodes de violence extrême de la part de pères PAIR, que ça soit dans le contexte de l'éducation, des autres garçons, qui sont en présence à l'adolescence en tant que jeune adulte. Souvent la stigmatisation chez les agresseurs, tout se mélange dans la tête. Souvent c'est des agressions qui ont l'air homophobes, c'est PD, éventuellement travelot, et des ruptures familiales avec les parents. Et donc, beaucoup renoncent en fait à la transition dans la jeunesse et puis transitionnent beaucoup plus tard dans la vie, mais essayent en quelque sorte de, voilà, pour se sauver, ben voilà, de rentrer dans le rang d'une certaine manière, de devenir des hommes en fait, voilà, qu'elles sentent qu'elles ne sont pas, mais voilà. Et alors que c'est une configuration qui existe, hein, chez les hommes trans aussi, mais qui est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare chez les hommes trans qu'il y ait une forme de renoncement comme ça, vraiment à la transition dans la jeunesse, même si ça existe en réalité.
Donc précisément parce qu'ils sont exposés à moins de violence que les femmes trans ?
Alors, je dirais pas plus ou moins, mais en tout cas, c'est différent et la temporalité des violences est différente. Parce que au début, en fait, l'entourage, les parents, les pères ne s'inquiètent pas forcément, se disent voilà, c'est un garçon manqué. Ce qui n'a pas d'équivalent, il n'y a pas de fille manquée. Donc, c'est quelque chose, du coup, il va y avoir une sorte de marge de tolérance jusqu'à un certain point. Et puis après, ils vont avoir des violences et des ennuis qui ressemblent beaucoup à ceux des femmes trans. Mais d'une certaine manière, c'est déjà trop tard. Ils sont déjà engagés dans la transition et ils ne vont pas forcément renoncer à ce moment-là, au moment où ça s'abat justement pour eux. Donc, je ne dirais pas plus ou moins, mais la temporalité des violences et de la sanction sociale fait que pour eux, ils ont plus le temps de s'engager progressivement dans leur masculinisation et dans leur transition.
Moi, la chose qui m'a frappée assez rapidement après le début de ma transition, c'est à quel point l'expérience de la masculinité, elle a été une expérience de l'invisibilité, de la sécurité. Donc typiquement, là où je me faisais constamment harceler dans l'espace public, par exemple, avant ma transition, aujourd'hui, je peux rentrer chez moi, 3h du matin, seul, sans que personne me regarde. Dans certaines configurations, mais pas toutes, et on reviendra là-dessus, faire une transition masculine, ça apporte son lot d'avantages. Vous parlez de mobilité sociale ascendante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, en fait, moi, c'est un concept que j'ai utilisé, hein, la mobilité sociale. Je parle aussi de transfuge, hein, voilà, pour parler des trans, parce que j'ai considéré, bon, après, je suis sociologue, donc forcément, c'est un cadre de pensée qui est très sociologique. Et du coup, j'ai considéré que finalement, la transition pouvait représenter une forme de déplacement social, de mobilité sociale, tout comme on parle de mobilité sociale de classe pour les personnes qui sont nées dans un milieu social et qui en ont changé au cours de leur vie. En fait, moi, ça c'est une approche qui était importante pour moi parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai constaté que les trans, les parcours trans, on les considérait la plupart du temps comme une simple question d'identité personnelle, individuelle, de comment on se sent du point de vue du genre. Et ça me suffisait pas tout à fait, même si c'est aussi ça, bien évidemment. Et du coup, parler d'ascension sociale, c'est quelque chose qui peut surprendre. J'en ai conscience de parler d'ascension pour les hommes trans, de déclassement pour les femmes trans. C'est vrai qu'on retrouve chez les hommes trans des traits qui ressemblent vraiment, vraiment à des traits des transfuges de classe. Hein. Voilà le fait, comme vous venez de le dire, hein, voilà que le regard des autres change. On peut marcher dans la rue tranquille la nuit, voilà, on a plus de respect aussi au travail, etc. Mais pour autant, je dirais que il faut faire attention à ne pas non plus comparer de manière tout à fait analogique les transfuges de sexe et les transfuges de classe, au sens où les hommes trans ne sont pas des hommes cisgenres. Ils n'auront jamais la trajectoire de vie qu'a eu un homme cisgenre, professionnellement, socialement, etc. Donc oui, il y a une forme de promotion sociale d'une certaine manière, mais ils n'arrivent pas au final dans une position qui est la même qu'un homme cisgenre de leur âge.
Oui, donc c'est une ascension avec un plafond de verre en quelque sorte. Et puis je le disais aussi, mais cette idée d'ascension-là, elle existe que dans certaines configurations. Parce qu'évidemment, bon, bah, les hommes trans, ils ne sont pas que des hommes ou pas que trans. Ils peuvent aussi faire l'expérience d'autres facteurs en fait, de minorisation. Je pense par exemple aux hommes racisés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la question raciale, par exemple, impacte le rapport au monde des hommes trans ?
En fait, ça, c'est vraiment des enjeux propres à l'intersectionnalité des rapports sociaux, c'est-à-dire à leur intrication, des rapports de genre, de race, de classe également. En fait, moi, de ce que j'ai pu constater, par exemple, c'est que tous les parcours d'ascension des hommes trans ne se valent pas du tout. Voilà, ils ne se ressemblent pas entre eux, entre autres parce que, par exemple, les hommes trans racialisés comme noirs ou arabes, par exemple, peuvent rencontrer dans certains domaines bien précis, comme tout ce qui est de l'ordre administratif ou même professionnel, encore plus de difficultés qu'avant, quand ils étaient des femmes. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été montré et démontré par beaucoup de personnes qui ont travaillé sur les masculinités, de manière générale, racisées. Et donc, effectivement, pour un homme trans racialisé comme noir ou arabe, il va rencontrer des difficultés que les hommes trans blancs ne vont pas forcément rencontrer du tout dans les mêmes situations. C'est-à-dire que ça peut devenir une vraie épreuve, par exemple, tout simplement de passer une frontière. Voilà, si les papiers d'identité ne sont pas changés, ne le sont pas encore, ou si la personne ne souhaite pas le faire, eh bien, ces papiers d'identité vont être considérés bien souvent comme des faux papiers, en fait.
Ce qui arrive du coup moins, par exemple, aux hommes trans blancs qui voudraient passer une frontière et qui n'auraient pas fait changer non plus leur état civil.
Évidemment. Sur cet aspect-là, voilà, purement des papiers, c'est plus les hommes trans qui ont des problèmes, parce qu'on les connaît moins dans les représentations. Donc s'ils disent « mais je suis un homme trans, voilà, mes papiers, c'est... » Du coup, souvent, on ne les croit pas. Mais c'est encore plus vrai pour les hommes trans racialisés comme noirs ou arabes, où là, voilà, il y a un soupçon qui pèse très immédiatement sur eux. C'est pas parce qu'on devient un homme que forcément, on a juste simplement plus de privilèges qu'avant dans tous les domaines. C'est pas le cas.
Oui, et sur ce sujet, je pense évidemment à l'article du militant panafricain Joao Gabriel dans Matérialisme Trans, dans lequel vous avez participé aussi. Cet article, il s'appelle « Devenir l'homme noir, repenser les expériences transmasculines au prisme de la question raciale ». Et lui, il ne parle pas d'ascension sociale, mais d'enfoncement dans la condition noire. Et je le cite « Certaines situations sont pires du fait d'être un homme noir ». Et j'insiste bien en disant « homme noir et pas homme noir trans », car beaucoup de situations auxquelles le trans noir sera confronté ne sont pas liées à sa condition trans, mais à sa condition d'homme noir. Et là, il cite les exemples du harcèlement raciste policier qui vient remplacer avant la transition le harcèlement sexiste et raciste que vivent les femmes noires dans l'espace public. Il vient aussi raconter qu'il n'y a pas d'ascension sociale pour les hommes trans noirs dans le travail, comme vous l'avez mentionné, puisque après avoir été surreprésentés dans le secteur, par exemple, du ménage, ils le sont dans celui du bâtiment. Dans vos travaux, vous racontez que la transition, elle a souvent un impact sur l'orientation sexuelle. Donc ça, c'est assez étonnant. En expliquant que les hommes trans, ils étaient presque tous des femmes lesbiennes avant leur transition, mais qu'après la transition, là je vous cite, le groupe des hommes trans se gayifie, donc c'est-à-dire qu'ils deviennent des hommes gays. Et c'est assez fou quand on y pense que l'orientation sexuelle puisse changer à ce point avec la transition. Comment on explique ça ?
Oui, ça c'était un résultat très important en fait dans ce travail-là. Que j'avais pas forcément anticipé autant que ça, à savoir le fait que les mobilités sociales de genre, dans toute leur diversité, encore une fois, sont aussi des mobilités sexuelles. Et plus encore que la sexualité participe de la construction du genre, forge en fait aussi les transitions de genre, c'est-à-dire que voilà, la sexualité a le pouvoir de faire et de défaire le genre, d'une certaine manière.
Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut séparer la notion d'identité de genre, d'orientation sexuelle, que ça n'a rien à voir, et vous dites précisément que ça communique.
C'est un sujet très délicat, en fait, en études trans, ça, parce qu'il y a toute une histoire de la sexologie depuis un certain nombre de décennies maintenant, ça fait plus de 40 ans, que des travaux de sexologie qui sont très prolifiques attribuent le désir de transition de genre à une question de l'ordre du fétichisme sexuel. Et c'est d'ailleurs dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ça, qui présente le risque, du coup, pour les trans de ne pas se voir autoriser justement les soins médicaux de la transition s'ils sont catégorisés là. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une histoire de mise à l'écart de la sexualité dans la pensée trans, dans les études trans, voilà. Et moi, j'ai essayé de le prendre un petit peu, voilà, de réhabiliter un peu la sexualité en la pensant, avec une approche aussi en études féministes sur l'articulation entre genre et sexualité. Et du coup, pour en revenir à ce résultat, en fait, comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer la transformation de la sexualité aussi avec la transition? Bah, tout simplement par le fait que la sexualité a des significations genrées. Moi, c'est comme ça que je le dis. C'est-à-dire que voilà, les orientations, d'une certaine manière, du point de vue de la sexualité, vont être signifiants du point de vue du genre et vont contribuer du coup à faire ou défaire le genre. Alors, qu'est-ce qui se joue pour les hommes trans au cours de la transition? Donc, vous l'avez dit, la plupart sont lesbiennes avant, même si c'est pas tout le monde, hein, mais c'est une écrasante majorité. À ce moment-là, le lesbianisme représente déjà une manière de s'extraire un peu de sa catégorie d'assignation de naissance, la catégorie femme. C'est déjà une manière, et ça c'est Monique Wittig qui l'avait montré, hein, de ne plus être totalement une femme. Puisqu'on ne relationne pas avec un homme, on n'est pas juste une femme par rapport à un homme, voilà, dans toute la sphère domestique, conjugale, sexuelle, etc. Donc c'est déjà une manière un peu de s'extraire de cette assignation. Et ensuite, ça va changer, justement, parce que ben, y a la transition. Et avant la transition, beaucoup d'hommes trans me disaient que même ils pouvaient être attirés par des hommes, c'était impensable de vraiment pratiquer la sexualité avec un homme. Ça les aurait trop réassignés à la catégorie femme. Alors qu'après, ben, il n'y a plus ce risque de réassignation. Déjà, ils ne relationnent plus avec des hommes hétérosexuels, mais gays. Ce qui change quelque chose. Et surtout, eh bien, ils ne sont plus des femmes. Donc en fait, ils ne vont plus forcément se sentir réassignés au féminin après. Donc la sexualité avec des hommes devient possible. Et de fait, il y a un tiers des hommes trans qui déclarent des partenaires masculins après la transition. Ce qui est une évolution assez incroyable, puisque avant, il y en avait très très peu qui en déclaraient.
Oui, et puis vous parlez aussi de phénomènes de distinction pour qualifier justement le fait que le groupe des hommes trans se gayifie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une façon aussi de rester rattaché dans une communauté, de ne pas être perçu comme voilà, des hommes cis hétérosexuels. Qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là?
Alors, à cet endroit-là, il y a la question justement, à mon avis, de la mobilité sociale. C'est-à-dire que c'est pas forcément simple d'un point de vue subjectif hein, de se reconnaître déjà dans la catégorie homme. C'est pas facile pour beaucoup. Beaucoup d'hommes trans ont des difficultés à vraiment se dire homme parce que ça représente tout simplement la catégorie qui a été celle qui incarnait l'oppresseur par le passé pour eux. Et c'est encore plus difficile la catégorie d'hétérosexualité, hein, puisque c'est vraiment l'hégémonie, quoi, l'homme hétérosexuel, voilà. Donc beaucoup, même parfois lorsqu'ils ont des pratiques qui peuvent paraître hétéro, beaucoup finalement ont beaucoup de mal à se dire hétéro, préfèrent même se dire gay, pédé, voilà, sachant que beaucoup pratiquent de toute façon voilà, la sexualité avec des hommes. Bon. Donc il y a une grande difficulté, je pense, hein, voilà, dans les parcours de mobilité comme ceux des hommes trans, à voilà, embrasser vraiment les catégories dominantes hein, du point de vue du genre et de la sexualité. Pour en revenir à ce qu'on se disait avant, justement, sur les mobilités à géométrie variable, puisqu'elles sont toujours intersectionnelles, ces mobilités, c'est pas forcément le cas de tous les hommes trans, en fait. Hein, il faut bien se dire que, voilà, c'est aussi ce sentiment de culpabilité, de potentiel sentiment de trahison aussi, qui peut advenir chez les hommes trans du fait de leur trajectoire et qui peut les amener à refuser aussi certaines catégories qu'on projette sur eux aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. Hein. Voilà, ce sentiment de culpabilité, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve à plus forte raison ben, chez les hommes trans blancs, hein, évidemment. Donc voilà, faut toujours garder ça à l'esprit.
Toujours en lien avec la question de l'orientation sexuelle, on entend souvent certaines lesbiennes anti-trans expliquer que les hommes trans sont en fait des femmes butch, donc c'est-à-dire des lesbiennes à l'expression de genre masculine, qui ont transitionné parce qu'elles avaient honte d'être lesbiennes, ou encore que la communauté lesbienne perdrait ses lesbiennes à cause des transitions des hommes trans. Donc en gros, si je résume, les hommes trans pourraient simplement en fait être des femmes masculines, plutôt que de vouloir faire partie de la classe des hommes, donc ça rejoint cette question de la trahison, justement, puis hein, faire partie de la classe des hommes en renforçant au passage les stéréotypes de genre, hein, ce qu'on reproche beaucoup aux personnes trans. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Moi, ça me paraît très compliqué de dire ça, tout simplement parce que ces expériences lesbiennes, y compris butch et trans, sont tellement liées. Jack Halberstam, par exemple, Gayle Rubin, qui sont des figures bien connues en études queer, ont montré que la frontière entre butch et transmasculinité, c'était quelque chose de l'ordre d'un continuum, en fait. Voilà. Et surtout, sachant que autant de personnes transmasculines ont été des lesbiennes et restent tellement attachées dans leur parcours à leur culture lesbienne, parce que c'est pas juste une sexualité, évidemment, une orientation, c'est aussi tout un mode de vie, une culture. Et en fait, pour avoir travaillé là-dessus et fait un certain nombre d'entretiens, il est tellement évident dans l'expérience sociale, dans les trajectoires sociales, que cette culture, eh bien, elle reste. La transition, c'est pas on passe la frontière du genre et puis on laisse tout derrière. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des personnes qui ont été des lesbiennes, qui ont vécu une vie en tant que lesbiennes, qui ont fait une transition et qui souvent gardent une forme de sociabilité lesbienne et de culture lesbienne. C'est une réponse suffisante, à mon avis, à cette interrogation qui peut être partagée par certaines, mais je pense pas par beaucoup.
En fait, on se rend compte que tout le monde se pose la question, mais pourquoi transitionner dans un monde patriarcal? Pourquoi devenir un homme? Et en fait, je pense que c'est intéressant de prendre cette question à bras-le-corps, peut-être même de la poser au sens philosophique du terme. Quelles sont les motivations, en fait, des hommes trans à transitionner, en sachant, comme vous l'avez dit en plus, que la plupart du temps, ils ont été eux-mêmes violentés par des hommes avant leur transition?
Je pense, hein, sans vouloir trop m'avancer, qu'il y a une diversité de facteurs hein, qui peuvent voilà, amener une transition. Des facteurs de parcours de vie, de carrière, comme on dit, carrière pas au sens professionnel, mais au sens de différentes étapes qui peuvent mener d'un point à finalement un autre par tout un tas de petites étapes. Et ces petites étapes peuvent être aussi... des rencontres, des lectures, le visionnage de certaines choses, le fait de voir que oui, ça existe des gens qui me ressemblent, qui pensent que, qui ont fait ce parcours et je me reconnais dans ce parcours et j'aimerais bien avoir être ressembler à cette personne plus tard, etc. Hein, voilà, ça passe par des choses comme ça. Souvent, moi dans les entretiens, du coup, ce qui ressort, c'est souvent qu'il y a eu un peu des petits déclics en voyant à la télé, par exemple, une personne trans, en lisant un livre dans lequel il y en avait une, et qui va amener un cheminement. Un cheminement progressif ou un mécanisme d'identification et parfois aussi des désidentifications. Pour la plupart, donc, les personnes transmasculines sont lesbiennes avant et vont se rendre compte qu'il y a une forme de dissonance par rapport à leur entourage lesbien. Que finalement, ils leur ressemblent pas tant que ça. Qu'ils sentent bien qu'ils sont pas lesbiennes comme leurs amis. Ce genre de choses, ça, moi, j'ai pu observer beaucoup.
Oui, et puis c'est intéressant parce que du coup, ça va complètement à contre-courant de l'idée qu'il y aurait une raison de transitionner, un parcours de vie, ce qu'on entend par exemple beaucoup dans la sphère médicale, dans la sphère administrative, il y a un récit qui est possible et nécessaire pour qu'on puisse accéder aux soins, accéder au changement d'état civil par exemple, c'est le récit de la haine de soi depuis la petite enfance, quoi. Enfin, non pas que ça puisse ne pas exister, enfin, pour plein d'hommes trans, il y a cet enjeu de la dysphorie par exemple qui joue depuis longtemps, mais je trouve ça intéressant de montrer qu'en fait, il y a autant de personnes que de trajectoires.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais d'où ça vient cette panique concernant les jeunes hommes trans ? Vous êtes peut-être déjà tombé sur des sites, des articles qui vous alertent sur le problème dit de la dysphorie de genre à apparition rapide. Pour rappel, la dysphorie, c'est la détresse qui vient du décalage entre le sexe qu'on nous a assigné à la naissance et le genre dans lequel on se reconnaît. Et la dysphorie de genre à apparition rapide, c'est un concept non reconnu scientifiquement qui a été créé par la chercheuse états-unienne Lisa Littman. Elle, ce qu'elle dit, c'est que les enfants cisgenres qui disent qu'ils sont trans, ils sont juste influencés par les réseaux sociaux. En gros, que s'ils n'avaient pas vu tel réel d'Insta ou compte TikTok, ils n'auraient jamais transitionné. Il faut savoir que sa méthodologie d'enquête, elle a été très critiquée par la communauté scientifique, puisqu'elle a simplement demandé leur avis à un groupe Facebook de parents qui sont révoltés par la transidentité de leur enfant. Cela dit, bien sûr que les réseaux sociaux, ça joue un rôle super important pour nous. Visibiliser la transidentité dans les médias, dans les films, les séries, sur les réseaux sociaux, ça nous permet de poser des mots sur ce qu'on vit. Donc ça vient pas nous laver le cerveau, ça vient nous montrer qu'on n'est pas seul. Je vais faire une comparaison. C'est comme pour les gauchers. Il n'y en avait presque pas au début du XXe siècle, et aujourd'hui, il y a environ 12% de la population qui écrit de la main gauche. Pourquoi ? Parce qu'on a arrêté de punir et de frapper les enfants qui écrivent soi-disant de la mauvaise main. C'est la même chose pour les personnes trans. Ce n'est pas qu'il y en avait moins avant, c'est juste que maintenant, elles ont enfin la possibilité de transitionner. Dans les milieux féministes et queer, on invoque souvent le passé des hommes trans en tant que femmes pour les inclure dans les espaces minorisés. Et on va considérer que parce qu'ils ont été élevés comme des filles et qu'ils ont vécu le sexisme, ils ne seraient pas des hommes comme les autres. Et ça peut prendre des formes très concrètes dans les luttes, comme par exemple les espaces en mixité sans hommes cisgenres, sous-entendu que les hommes trans ont droit d'y être, qu'ils ne sont pas des hommes comme les autres. Alors justement, est-ce qu'ils le sont, des hommes comme les autres ?
Just One of the Guys, c'est le titre d'un livre hein, sur les hommes trans au travail de Kristen Schilt. Évidemment, non, on ne peut pas comparer. Hein. Je pense une trajectoire sociale d'un homme cisgenre qui n'aurait pas vécu cette forme de déplacement social à celle d'un homme trans, bien évidemment. Donc je dirais que non, tout simplement. Hein, le fait, effectivement, d'avoir été socialisé d'une certaine manière marque ses trajectoires. Hein, voilà. Mais après, ça, c'est vraiment un raisonnement de sociologue. Hein. Encore une fois, tout le monde ne partage pas cette approche-là. Mais ce qui est important de dire, c'est que il y a une très grande diversité de socialisation, par contre. Hein, voilà, que ce soit chez les personnes... En fait, chez tout le monde. Hein, donc, y compris, du coup, chez les personnes trans et chez les personnes transmasculines. Des socialisations, alors, les sociologues disent souvent des socialisations atypiques pour désigner le fait que, voilà, c'est pas la traditionnelle socialisation différenciée filles-garçons qui s'est jouée, etc. Moi, j'aime pas trop ce terme d'atypie. Ça veut dire qu'il existerait une socialisation typique. Mais en tout cas, il y a une diversité de socialisations qui peuvent aussi coexister, enfin, voilà, parmi les personnes transmasculines. Donc, c'est important de dire que tout le monde n'a pas la même trajectoire. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que il est peu probable que des hommes trans aient été socialisés exactement comme des hommes cisgenres pendant leur enfance, leur adolescence. Je ne pense pas que c'est le cas parce que de toute façon, les gens les voyaient comme des filles, même s'ils, eux, ils ne se voyaient pas comme ça. Mais ils ont été traités comme ça, même si eux, ils se sentaient autrement. Non, c'est pas des trajectoires comme celles des hommes cis. Par contre, faut quand même signaler que le fait de dire ça peut être interprété parfois de manière assez dommageable comme une manière de dire que les hommes trans ne sont pas des hommes. De dire ça, moi je pense que ça n'enlève rien à la position qui est désormais celle des hommes trans et à leur identification de genre, à leur position d'aujourd'hui, de dire que oui, ils n'ont pas une trajectoire d'homme cisgenre. Donc voilà, il faut faire attention aussi à l'instrumentalisation de ce...
Oui, là vous parlez de la question de la socialisation dans le cas des hommes trans. Mais cette question de comment on a été élevé, de comment on a été socialisé, c'est aussi souvent un argument qui est invoqué contre les femmes trans, en gros pour dire qu'elles seraient dangereuses puisqu'elles auraient été élevées comme des hommes. Moi, à titre personnel, je suis entourée de femmes trans qui m'expliquent n'avoir jamais été traitées comme des hommes, en fait. Dans le sens où même bien avant leur transition, bien avant que leur famille soit au courant de leur transidentité, parfois dans la toute petite enfance, en fait, leur féminité, elle était déjà sanctionnée.
C'est très intéressant la question que vous posez, parce que c'est justement tout le problème que ça pose, le concept de socialisation, par rapport au parcours trans. Ça permet de comprendre aussi pourquoi moi j'ai tourné autour sans vraiment l'aborder directement, alors même que c'est un concept central en sociologie. Parce qu'il y a des risques politiques avec ce sujet de la socialisation. Ce que vous décrivez là dans les récits de femmes trans, c'est quelque chose que j'ai beaucoup recueilli aussi en entretien, dans les récits d'enfance et d'adolescence, puisque c'était des entretiens rétrospectifs biographiques. En fait, moi j'aurais tendance à dire que c'est pas incompatible, justement, ces récits de violence, de dressage, en fait, hein, aussi avec la question de la socialisation, parce que justement ces violences sont profondément liées au fait que leur entourage les voyait comme des garçons et du coup les sanctionnait parce que justement elles ne se comportaient pas comme des garçons. La violence fait partie, en fait, de la socialisation. La violence, le dressage, c'est comme ça aussi que les individus sont socialisés par les interdits, par ce qui est impensable et ce qu'on va corriger, ce qu'on va réassigner. C'est pour ça que pour moi, c'est pas incompatible de penser avec la socialisation parce que, à travers toutes ces violences, elles ont été socialisées comme des garçons à la dure. Il n'y a pas de féminité qui doit s'immiscer dans la maison des hommes. Et ça fait partie, tristement, justement, d'une forme de socialisation masculine.
Sur cette question de comment on élève en fait les enfants trans, j'ai envie de renvoyer nos auditeurices à un rapport du Conseil de l'Europe qui date de 2013, dont vous trouverez la référence dans le post qui accompagne l'épisode sur le site binge.audio. Ce rapport, il explique que les enfants trans, ils sont surexposés aux violences intrafamiliales et notamment sexuelles, même lorsque la famille ne sait pas encore qu'ils ou elles sont trans, et que, vous venez de le dire, hein, mais que ces violences, elles visent à corriger ce qui est perçu comme une déviance aux normes de genre attendues d'elles et eux. Et il existe aussi une source française, qui est le rapport Virage LGBT de 2015, qui note que 37,6% des mineurs trans subissent des violences physiques dans leur famille et 13,8% des violences sexuelles. Là, on parle des enfants, mais j'ai aussi envie de raconter ce que c'est l'expérience du monde d'un homme trans adulte. Dans mon cas, une des choses qui est la plus marquante, je pense, c'est ma position, mon sentiment, quand je me trouve au milieu d'hommes cisgenres qui sont pas au courant de ma transidentité. Parce que quand ils sont au courant, ça change la dynamique. Mais voilà, je me sens comme une espèce de petite souris infiltrée avec l'impression d'avoir un secret, mais surtout d'être dans un espace social dans lequel je me sens pas à l'aise, dans lequel j'ai pas les codes. Et je sais que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'hommes trans parce que j'en parle beaucoup avec les hommes trans autour de moi. Qu'est-ce que ça vient raconter, ça, de la condition transmasculine ?
Ça prenait beaucoup de place en entretien, effectivement, ce sujet-là. Des termes comme sous-marin, comme voilà, un espion du patriarcat, etc. Voilà, c'est quelque chose de très largement partagé. Parce que, finalement, en devenant des hommes, ou en tout cas en étant perçus comme tels, c'est valable aussi pour des personnes qui ne s'identifient pas forcément à cette catégorie, hein, mais qui en tout cas sont perçues comme ça, eh bien, avec cette transition vient la découverte de certaines expériences qui, par définition, ne pourront jamais être connues par des femmes cisgenres, par exemple. Comme la découverte de l'entre-soi masculin, qui est très perturbante hein, pour beaucoup. C'est vraiment... Il y a un grand malaise, quoi. Hein. Bon, puisque c'est vraiment une découverte. C'est nouveau et... c'est la découverte de ce qui se déploie en l'absence des femmes entre hommes, sachant que l'entre-soi hein, des dominants de manière générale est un espace très important de reproduction de la domination. Hein. Ça passe par l'entre-soi. Voilà. Donc bon, c'est quelque chose effectivement qui conduit à ce sentiment de ne pas appartenir finalement à ce monde-là et qui peut conduire pour beaucoup à s'en auto-exclure. Comme c'est le cas chez beaucoup de transfuges de classe en ascension. C'est-à-dire de s'y sentir tellement mal, finalement, et vient avec ça la peur d'être démasqué et du coup violenté. Voilà, les violences viennent aussi pour les hommes trans de ce que, s'ils sont perçus en tant que trans dans la tête des autres hommes, peuvent les voir comme des femmes. Et du coup, voilà, ça peut être des violences similaires à celles des femmes trans. Il y aurait de la féminité qui viendrait dans la maison des hommes. Enfin, c'est toujours un peu le même problème en termes de violence. Et du coup, donc, il y a la peur d'être démasqué, mais il y a surtout ce grand malaise, quoi, qui est de ne pas appartenir finalement à ce monde-là et de s'y sentir mal parce qu'on a soi-même, justement, été assigné fille par le passé. Ça donne un peu le sentiment d'être à la fois dedans et dehors, hein, outsider within, être là mais être pas vraiment là, et donc privilégier d'autres formes de sociabilité.
Oui, c'est cette notion de outsider within, justement, c'est une notion qui est développée par Kristen Schilt, dont vous avez cité le travail tout à l'heure, mais qui étudie la place des hommes trans au travail et leur position selon que leur transidentité soit connue ou pas, et qui rapporte beaucoup justement cette notion qui est elle-même décrite par les hommes qu'elle a interrogés, d'étrangers de l'intérieur, littéralement. Dans votre dernier livre, vous revenez sur les enjeux de l'inclusion et de l'exclusion de certaines populations des milieux féministes. Et vous dites que c'est un enjeu qui a traversé toute l'histoire du féminisme depuis ses débuts, que ça a amené de manière récurrente l'exclusion de populations spécifiques, donc parmi lesquelles, par exemple, les travailleurs et travailleuses du sexe, les femmes musulmanes, les femmes noires, et puis bien sûr les personnes trans, soit parce qu'on considérait leur combat comme secondaire, soit carrément car on pensait leur combat antiféministe. On en est où aujourd'hui sur la question spécifique de la place des personnes trans dans le féminisme et de quelle manière la question elle se pose de manière différente selon qu'on parle d'hommes trans et de femmes trans ?
C'est pas très optimiste hein, finalement. Hein, bon. Mais ce que moi j'ai essayé de montrer, c'est que on a l'impression que c'est un sujet un peu nouveau. En tout cas en France depuis quelques années, que on voit se développer très fortement et notamment médiatiquement des discours et des pratiques féministes anti-trans, en tout cas des pratiques anti-trans qui se revendiquent du féminisme. Et moi, je pense que c'est pas un sujet nouveau. C'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. Hein. Voilà, il y a des textes très connus qui ont été publiés dans les années 70. Et c'est quelque chose qui traverse le mouvement à différentes époques et qui se transforme. Hein, voilà. C'est-à-dire que, évidemment, par exemple, dans les années 70, 80, 90, c'était plutôt les femmes trans qui étaient visées. Hein, très clairement. Ça rejoint la deuxième question, du coup, qui étaient dépeintes, évidemment, comme des hommes, hein, qui seraient comme des espions du patriarcat, qui viendrait s'immiscer dans les milieux féministes pour y rétablir le patriarcat et puis qui viendrait en fait réintroduire du patriarcat dans les espaces féministes pour les faire disparaître, qui viendrait aussi là pour violer des femmes, des lesbiennes, etc. Bon, ça c'est, voilà. C'est un discours qui est toujours présent mais qui s'est un peu diversifié. Aujourd'hui, c'est vrai que les hommes trans sont très visés également et notamment au motif que ça serait une sorte de conversion de lesbiennes, qui du coup ça serait des personnes qui influenceraient des lesbiennes pour devenir des hommes, etc. Bon, il y a toute une diversité, c'est très important de dire qu'il y a toute une diversité de féminisme anti-trans, hein, il n'y en a pas qu'un seul type. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue pour les hommes trans et les femmes trans d'assez commun finalement entre les deux, même s'il y a des déclinaisons, c'est que dans les deux cas, on va regarder du côté de la masculinité. On va se dire, voilà, c'est soit des personnes qui ont été des hommes ou qui en sont devenus. Donc, dans tous les cas, c'est des hommes. Hein, voilà, c'est un peu ça qui ressort de ces discours-là. Pour moi, qui résonne avec la notion de déplacement ou de mobilité sociale, je vois plutôt l'autre côté. C'est-à-dire que les trans sont nécessairement des personnes qui ont été des femmes ou qui en sont devenues, ou qui ont en tout cas été traitées comme telles à un moment ou à un autre de leur vie. Mais pour comprendre ça, il faut raisonner avec des trajectoires de vie, c'est pas un instant T. Et du coup, ce que je vois, c'est que c'est des personnes qui ont toutes connu, en fait, ce que c'est que d'être traitées comme une femme dans le monde social dans lequel on vit. Et la transition, de ce point de vue-là, c'est aussi toujours, comme dans tout parcours de mobilité, un révélateur extrêmement puissant des privilèges qui ont été gagnés ou de ceux qui ont été perdus en route. Donc d'une certaine manière, voilà, les personnes trans sont les personnes les plus conscientes finalement de la différence que ça fait d'être traité comme un homme et comme une femme dans une société donnée. Donc c'est pour ça que ces discours-là, moi, me paraissent complètement absurdes finalement, puisque au contraire, ce sont les seules personnes à avoir vu le monde des deux côtés et à avoir pleinement conscience, justement, de la différence que ça fait.
Ce que je retiens, en fait, de ce que vous me dites, c'est que vous voyez la destination quand les anti-trans voient l'assignation de naissance et encore une fois la voient comme indépassable. Et c'est là où je pense que c'est pas possible de considérer que c'est un discours féministe, même si elle s'en revendique effectivement, au sens où l'objet même du féminisme, c'est de dire que la position d'homme ou la position de femme, c'est pas voilà une destinée biologique, c'est pas une assignation qui viendrait déterminer le rôle qu'on a dans le monde et la façon dont on nous perçoit, quoi.
Ben voilà, la question de la biologie est très présente hein, dans ce type de discours-là. Mais encore une fois, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est de réinscrire ça aussi dans une histoire de la pensée féministe et du mouvement, mais aussi de la pensée et notamment sur la biologie. Hein, et dans tout un courant féministe qu'on appelle la critique féministe des sciences, ça a été depuis très longtemps déconstruit hein, cette idée que biologiquement il existerait naturellement des hommes et des femmes. Enfin, je veux dire, les sciences et la médecine ne parviennent pas en fait hein, à faire rentrer les individus dans ces cases-là et passent beaucoup de temps à essayer de les faire rentrer, notamment les personnes intersexes et trans, mais que finalement c'est un modèle qui ne fonctionne pas. C'est une bicatégorisation qui est toujours perpétuellement en crise, puisque les corps et les physiologies ne correspondent pas. Voilà, en médecine, le sexe, c'est pas juste l'apparence des organes génitaux. Hein. C'est des chromosomes, l'apparence des organes génitaux, phénotypiques, et des taux hormonaux. Donc, les taux hormonaux, c'est quand même très variable, les chromosomes aussi, l'apparence des organes génitaux aussi. Donc, c'est une configuration, finalement, sexuée, on pourrait dire. Bon. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut déconstruire avec l'histoire de la critique féministe des sciences et qui est portée en grande partie par des biologistes. Hein. C'est pas juste des sciences sociales hein, voilà, qui ont démontré ça. Je pense que c'est important aussi de s'intéresser à cette histoire de la construction, finalement, de la différence des sexes aussi du point de vue de la médecine.
Oui, et puis si on parle de biologie, la transition agit sur la biologie aussi. Et je trouve ça toujours un peu dommageable de diviser voilà, l'identité de genre d'un côté et puis la biologie de l'autre, comme s'il y avait une donnée raisonnable, naturelle, etc. Et puis de l'autre, une espèce de lubie personnelle ou de façon dont on se sent, etc. Puisque le fait de prendre un traitement hormonal, le fait de bénéficier voilà, d'opérations chirurgicales potentielles, bah, ça agit sur voilà, les taux hormonaux, la forme des organes génitaux, sur les caractéristiques sexuelles secondaires. Donc, on change aussi biologiquement, en fait, en étant des personnes trans en transition.
Absolument. Toutes les rhétoriques stigmatisantes pour les trans au sujet de la biologie, justement, comme moyen de les réassigner d'une manière ou d'une autre, sont aussi des rhétoriques qui ont stigmatisé des femmes cis. Puisque ça a été aussi un moyen de les réassigner à la reproduction, à un destin reproductif, à une condition corporelle jugée faible, voire malade. C'était aussi un moyen de les médicaliser encore davantage et donc de les contrôler plus que les hommes. Tout ce qui finalement porte une forme de stigmatisation du point de vue de la biologie pour les trans, c'est aussi quelque chose qui a été extrêmement préjudiciable pour les femmes cisgenres dans l'histoire.
Quand on parle de discours anti-trans, bon bah là on parle effectivement de ce qui se passe au sein même des sphères féministes, mais j'ai aussi envie de dézoomer un peu et de voir ce qui se passe pour les personnes trans dans le monde, parce que il me semble que c'est un temps assez sombre pour elles, sur le plan politique, sur le plan médiatique. Aux États-Unis, il y a près de 500 propositions de loi anti-trans qui ont été soumises depuis le début de l'année 2024 seulement, donc en l'espace de 2 mois. En Hongrie ou en Russie, la transition, elle est interdite ou en tout cas fortement empêchée depuis 2023. Au Royaume-Uni, la clinique Tavistock, qui était le seul établissement du pays qui permettait la prise en charge des mineurs trans, a été fermée. En France, les sénateurs, les Républicains ont constitué en 2023 un groupe de travail sur ce qu'ils appellent la transidentification des mineurs. Et les groupes anti-trans se structurent un peu partout dans le pays, avec des tribunes anti-trans publiées en série dans Marianne, Le Figaro, Valeurs Actuelles, etc. Et on a aussi vu apparaître l'Observatoire de la Petite Sirène, par exemple, qui se définit comme un observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent, mais aussi Hypomonie, qui est un collectif, je cite encore, de parents concernés par l'explosion des transitions médicales et chirurgicales rapides et irréversibles des enfants, adolescents et jeunes adultes. Donc on n'est vraiment pas sur un nom anodin de collectif. Comment vous expliquez justement ce matraquage médiatique, politique que subissent les personnes trans ces dernières années? Qu'est-ce que ça raconte et pourquoi les hommes trans sont de plus en plus visés là où ils étaient assez épargnés jusqu'ici?
Il y a, dans ce que vous avez dit, quelque chose qui est décisif, je pense. C'est la question du lien avec l'extrême droite, hein, qui est de plus en plus assumée, hein, dans certains types de mouvements, qui se revendiquent du féminisme, malheureusement. Donc il y a ça, et il y a aussi un contexte qui date hein, maintenant de développement exponentiel de ce qu'on appelle généralement les mouvements anti-genre. Hein, bon, c'est quelque chose qui est parti plutôt de la religion, hein, catholique, dans les années 90, et puis qui s'en est un petit peu, qui est devenue un peu indépendante finalement, qui a pris beaucoup de formes différentes, qui n'est plus forcément liée à la religion maintenant, et qui connaît beaucoup de déclinaisons. Et une des cibles de ces mouvements anti-genre, on entend souvent les discours sur les woke, intersectionnalité, etc. Mais une des cibles, c'est les trans, très clairement. Ça vient de là, et puis, entre autres, et puis il y a beaucoup de facteurs que moi je ne pourrais pas expliquer n'étant pas spécialiste de la question. Moi, mon combat, c'est plutôt d'essayer de réinscrire un peu tout ce qui se passe en termes de stigmatisation et de négation des vies trans dans une histoire longue du féminisme. Moi, c'est plutôt ça que j'essaye de faire. Mais en tout cas, je dirais que sur la question des hommes trans, du fait qu'ils sont eux-mêmes de plus en plus ciblés, hein, que c'est lié au fait que, avant, on ne les connaissait pas ou peu. Et qu'on a cette idée d'une apparition soudaine, alors que c'est simplement qu'ils ont été très longtemps invisibilisés, médiatiquement, scientifiquement, etc. Et il y a aussi, pour terminer, je dirais peut-être un mot sur la question de la jeunesse, puisque souvent les formes de panique morale, entre guillemets, sont liées à la jeunesse. Et on le voit très clairement, hein, ces dernières années sur les trans, ça se focalise beaucoup sur les jeunes, les transis, les mineurs, est-ce qu'on les autorise à transitionner ou non. Et ça, c'est quelque chose qui, on entend souvent des personnes dire, il y a beaucoup plus de mineurs transmasculin que transféminin, des filles qui demandent à devenir des garçons, etc. Mais ça rejoint en fait un constat que moi j'ai pu faire chez les... j'ai travaillé sur les adultes, hein, mais c'est-à-dire qu'il y a plus de conditions de possibilité parfois pour les jeunes hommes trans que pour les jeunes femmes trans, qui vont, pour beaucoup, les jeunes femmes trans, étant donné que la sanction est tellement immédiate pour elles, puisque un garçon qui se féminise, il y a une sanction très immédiate, que du coup, ça pourrait être une hypothèse pour expliquer que, il y a cette idée que, oui, plus de garçons trans vont s'autoriser à peut-être émettre l'idée que, ils aimeraient peut-être être des garçons, en fait, puisque les jeunes filles trans vont avoir peut-être plus peur aussi de pouvoir énoncer ça.
Oui, et puis sur justement cet enjeu de la protection de l'enfance, parce que c'est vraiment ça qui est invoqué pour alarmer sur la supposée explosion des transidentités masculines, etc. Je pense qu'on peut dire que en fait c'est un argument qui se réactualise au fil des années. Donc là, je renvoie au livre de Rosane Le Carboulec qui s'appelle Les Humiliés et qui revient 10 ans après la Manif pour tous sur les arguments qui étaient déployés à ce moment-là et qui visaient aussi la protection des enfants. Il ne faut pas exposer les enfants à des sexualités contre nature, avec toute cette idée qui est réutilisée aussi aujourd'hui pour les personnes trans de grooming, donc l'idée que on va séduire les enfants pour les embarquer dans la communauté, etc. C'est quelque chose que Rosane Le Carboulec explique très bien sur la manière dont en fait les arguments homophobes d'hier sont les arguments transphobes d'aujourd'hui et qu'en fait c'est des discours qui sont simplement réactualisés selon l'état du débat public aussi, où c'est plus compliqué aujourd'hui d'être homophobe que transphobe. Pour terminer cet entretien, quelle œuvre vous recommanderiez à nos auditrices?
Peut-être un classique, hein. Je me dis que c'est toujours bien, un classique qu'on peut lire en français. Sunbush Blues de Leslie Feinberg, qui a été traduit par un collectif il y a quelques années et qui est paru donc en français aux éditions Hystérique et Associés, à un prix très raisonnable pour la taille de ce livre, puisque c'était la volonté de Leslie Feinberg. C'est un livre qui permet vraiment de déconstruire justement cette espèce d'opposition qui est introduite par certaines personnes entre les lesbiennes et les hommes trans, puisque qu'on voit que voilà, dans ce livre, ben, c'est pas du tout incompatible finalement d'être une butch et puis d'être aussi peut-être un garçon trans, et de voir que c'est pas facile à lire, mais de voir que les violences s'y viennent un peu du même endroit justement quand on est butch et quand on est une personne transmasculine. Donc voilà, et par ailleurs c'est une très belle lecture, donc
oui, c'est une lecture magnifique que je conseille aussi à tout le monde. C'est un des plus beaux romans du monde pour moi.
Voilà.
Merci Emmanuel Bobatti.
Ben merci à vous.
Pour terminer, Tal, est-ce que tu veux bien nous lire un passage de Stone Butch Blues, le passage où Jess, le personnage principal, fait sa première injection de testostérone?
J'ai repensé à la fois où mes parents m'avaient surprise habillée avec les vêtements de mon père. Des souvenirs réconfortants m'ont envahi. Des amis butch, des confidentes drag queen, des amantes femmes. Et je ne pouvais pas les rejoindre maintenant. J'étais seule à ce carrefour. Je n'arrivais pas à me résoudre à enfoncer l'aiguille dans ma cuisse. Puis j'ai revu ma Norton, fracassée en 1000 morceaux sur le parking de la pizzeria. J'ai planté l'aiguille dans ma cuisse et j'ai injecté le produit. C'était moins dur que ce que j'avais pensé. J'ai senti monter une vague d'excitation en moi. Je ressentais la possibilité que quelque chose change, qu'un énorme poids me soit enlevé. J'allais peut-être maintenant enfin être moi-même et simplement vivre. J'ai fermé les yeux et j'ai reposé ma tête contre le carrelage du mur. Après un moment, je me suis levée et j'ai remis mon pantalon. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. C'était toujours moi, en train de me regarder.
Chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a permis de poser un autre regard sur la transidentité et les transitions de genre. Si vous avez un ou une proche qui a démarré une transition et que vous souhaitez l'accompagner, eh bien consultez la brochure pour l'entourage des personnes trans disponible sur wikitrans.co ou bien rapprochez-vous d'associations comme Espace Santé Trans ou Outrans. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à nous dire ce que vous en avez pensé en nous écrivant à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les références mentionnées durant cet épisode sur le site binge.audio.
Les Couilles sur la Table, c'est un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Avec moi pour construire cet épisode, il y avait Victoire Tuaillon au conseil éditorial, Paul Berthiaud à la prise de son, Quentin Bresson à la réalisation, Naomi Titi à la production, Lucille Lebouter à l'édition et à la communication, Jeanne Longhini et Lise Niederkorn.
Merci pour votre écoute et à bientôt.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.